Je vais commencer bien sûr par remercier les organisateurs qui m'ont invité donc, pour présenter cet ouvrage, Mémoire d'Empire, qui a été publié il y a maintenant un peu plus d'un an. Je vais aller tout de suite au vif du sujet, d'autant qu'on a décidé d'avoir à peu près trois quarts d'heure de présentation afin de laisser une large place au débat avec la salle et donc à vos questions. Évidemment, ça m'obligera à aller très vite, voire à passer très vite sur un certain nombre d'évolutions qui sont d'ailleurs décrites beaucoup plus en détail dans l'ouvrage. Mais je crois que c'est important plutôt d'avoir un moment d'échange que simplement de vous refaire le sommaire du livre. Donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais commencer par deux ou trois considérations en introduction sur la nature du projet. C'est-à-dire la raison pour laquelle j'ai été conduit à écrire ce livre et ce sur quoi ce livre souhaitait être non pas une prise de position, non pas un commentaire, mais une étude. Alors simplement pour dire, vous le savez tous, que les débats en 2005, en particulier à la suite de la promulgation de la loi du 23 février et de son article 4, à la suite de la publication le 16 janvier de l'appel des indigènes de la République, les débats ont donc été extrêmement virulents, non seulement dans le monde politique proprement dit, non seulement dans les univers militants, mais également dans l'univers des historiens et sociologues professionnels qui font métier de la compréhension de ce qu'a représenté le moment colonial, en l'espèce du régime républicain français. Ça a donc été un moment extrêmement violent, non seulement dans le champ politique ou militant proprement dit, mais aussi dans le champ des sciences sociales. Ça a donné lieu à de nombreuses mobilisations, en particulier des historiens de métier, qui ont créé, par exemple, autour de Gérard Noiriel, le CVUH, le comité de vigilance par rapport aux usages publics de l'histoire. De ce point de vue-là, quiconque avait travaillé sur telle ou telle situation coloniale a inévitablement été pris dans le tourbillon du débat. Je dis ça parce que c'est une manière de me situer. Donc, je ne suis pas historien de la colonisation française, je ne suis pas spécialiste de la guerre d'Algérie, qui a été l'un des arrière-fonds ou des arrière-plans permanents de ce débat. En revanche, j'ai travaillé sur l'histoire coloniale d'une autre puissance européenne, les Pays-Bas, puisque j'ai étudié la colonisation néerlandaise à Java, en particulier à la fin du XIXe siècle. Simplement, à un moment donné, donc, le débat était tellement virulent qu'il m'a semblé qu'il pouvait être intéressant non pas de prendre position dans le débat, mais d'essayer de prendre le débat pour objet d'étude. Et autrement dit, d'appliquer à ce qui était en train de se passer un certain nombre d'outils, d'instruments, des sciences humaines, qui relèvent en particulier d'un domaine qui est aujourd'hui bien enraciné en sociologie, la sociologie des controverses. Autrement dit, nous n'étions pas, en sciences humaines et sociales, complètement démunis par rapport à ce débat. Nous avions des outils qui nous permettaient, non pas d'en être otages, mais de le prendre pour objet. Autrement dit, Mémoire d'Empire, c'est la tentative de la mise en récit sociologique d'un processus de mise en controverse, la question coloniale mise en controverse dans un certain nombre d'espaces. Alors, deuxième, peut-être préalable en introduction, je suis parti d'un principe qui est que finalement, ce qui était important lorsqu'on essayait de faire le récit sociologique de ce processus de mise en controverse, et donc de casser l'effet de naturel ou de naturalité de la controverse, de montrer qu'elle ne s'institue pas d'une certaine manière d'elle-même, pour des raisons qui seraient irrépressibles, mais qu'elle est le produit de travail, d'investissement politique, idéologique, etc. Donc je suis parti d'une idée que je dois à la lecture que j'ai faite des travaux de Michel Foucault, qui a toujours été un auteur important pour moi. Et Foucault disait que, de toute façon, la question importante, ça n'est pas tellement de savoir qui parle, c'est plutôt la question de savoir ce qui est dit. Autrement dit, Mémoire d'Empire, ça n'est pas non plus un pamphlet, comme il y en a eu, pour le coup, beaucoup, qui vise à mettre en accusation tantôt les parlementaires de droite qui ont voté et défendu la loi du 23 février, tantôt les associations militantes du mouvement autonome de l'immigration et autres qui ont contesté, et de manière évidemment légitime, cette loi du 23 février. Le but du jeu pour moi, c'est évidemment de resituer des trajectoires individuelles, c'est-à-dire de montrer qui sont les gens qui ont à un moment donné été les locuteurs de cette controverse, ceux qui ont pris la parole, mais c'est surtout de m'interroger sur ce qui est dit et donc sur ce qui, à un moment donné, devient dissible, qui ne l'était pas auparavant. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette controverse, pour dire les choses très simplement, ce qui me frappe aujourd'hui encore, parce qu'elle continue à produire des effets très forts dans la manière même dont on pense un certain nombre de questions qu'on pensait différemment il y a 10 ou 15 ans, c'est précisément qu'elle a changé les termes mêmes dans lesquels on pose un certain nombre de questions, et qu'elle a permis de dire politiquement des choses qui n'étaient plus qu'il avait été, mais qui n'étaient plus dissibles politiquement 10 ans ou 15 ans auparavant. Et je vous en donnerai, j'espère, si j'ai le temps, un ou deux exemples très concrets dans le cours de la présentation. Alors voilà pour les remarques introductives. Bon, j'ai organisé cette présentation en trois parties. Et toutes ont directement à voir avec les polémiques nées de la promulgation de la loi du 23 février 2005, et plus particulièrement de son article 4. Donc, je vais commencer par vous donner lecture de l'article 4, parce qu'il n'est jamais inutile de le rappeler en son entier. Les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite. Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée. Donc voilà le texte de l'article 4 de cette loi du 23 février 2005. Article 4 qui n'existe plus, qui a disparu. Si vous allez sur le site de l'Assemblée nationale consulter le texte de la loi du 23 février, vous trouverez en lieu et place de cet article 4 une mention selon laquelle il a été déclassé par une décision du Conseil constitutionnel. Ce qui a été une des grandes stratégies de sortie de crise politique à la fin de l'année 2005, ça a été le recours, l'appel présidentiel à un arbitrage du Conseil constitutionnel qui a donc prononcé le déclassement réglementaire de l'article 4 et donc son abrogation comme article de loi. Alors je reviens deux secondes sur ce fait parce que le Conseil constitutionnel, en l'espèce, n'a pas statué sur le fond de l'article. Le Conseil constitutionnel, à aucun moment, n'a dit que les députés avaient eu tort ou raison d'écrire ceci ou cela dans un texte de loi. L'arbitrage du Conseil constitutionnel n'est donc pas un arbitrage sur le fond. Le Conseil constitutionnel s'en est tenu à son strict mandat technique, institutionnel, à savoir qu'il est chargé de faire la part entre ce qui est du domaine de la loi et donc du Parlement, des assemblées élues, d'un côté, et de l'autre côté, ce qui est du domaine du règlement, c'est-à-dire du gouvernement et de l'administration. Et le Conseil constitutionnel a constaté que dans cet article, des députés de la représentation nationale avaient un propos prescriptif par rapport à l'enseignement universitaire et scolaire, alors qu'il existait sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale un ensemble d'instances à qui il incombait précisément de statuer sur ces questions. Autrement dit, le Conseil constitutionnel, pour aller très vite, a simplement dit il existe une commission des programmes, il existe tout un ensemble d'instances internes au ministère de l'Éducation qui ont à charge en propre ces questions. La représentation nationale n'avait donc pas à s'immiscer dans ce domaine. Donc la sortie de crise a été politique parce qu'elle a procédé d'un appel présidentiel tactique au Conseil constitutionnel, mais l'abrogation par le Conseil constitutionnel de cet article n'a à aucun moment signifié donc un jugement sur le fond même du propos de l'article 4. Alors je vais commencer par une première partie, donc cette présentation, une première partie qui prend pour point de départ les premières interprétations constituées de cette controverse autour de l'article 4. C'est-à-dire très rapidement, quelques mois après sa promulgation, lorsque donc le scandale s'étend, lorsque le scandale envahit un ensemble d'espaces médiatiques, politiques, militants, universitaires, on voit très rapidement de premiers récits qui essayent d'expliquer ce qui s'est passé et qui essayent donc d'expliquer comment la mention d'un rôle positif de la présence française outre-mer a pu devenir l'objet d'un traitement législatif, a pu devenir texte de loi. Et la thèse qui s'impose rapidement, et la thèse plutôt que l'hypothèse, parce qu'elle est posée comme une évidence, c'est celle qu'on pourrait appeler du complot pied-noir. Et on a un certain nombre d'articles, y compris sous la plume d'historiens universitaires qui rentrent avec vigueur dans la polémique, qui sont intitulés « Le complot pied-noir » ou « L'OAS au cœur de la République ». Alors il faut déjà prendre donc la mesure de ce que signifie ce type d'intitulé et cette position. L'idée fondamentale, c'est que cette loi, c'est-à-dire le fait qu'une position qui sera jugée par la suite scandaleuse ait pu devenir un texte de loi, le fait qu'un certain nombre de paroles politiques qui par la suite font scandale aient pu être proférées dans une enceinte parlementaire, L'idée fondamentale est que tout cela est dû à l'entrisme de quelques-uns et donc au dévoiement particulariste de la représentation nationale. Autrement dit, c'est une poignée de députés qui entretient des relations privilégiées avec un ensemble d'associations qui, depuis qu'elles existent, font requête d'un propos qui reconnaisse en particulier la présence, les aspects positifs de la présence française outre-mer. C'est donc l'activisme de quelques-uns qui aurait fait loi. Alors il faut prendre la mesure de ce propos qui consiste à expliquer qu'un système institutionnel relativement lourd, la République parlementaire française, telle qu'elle fonctionne dans le cadre des institutions de la Ve République, telle qu'elle fonctionne dans le cadre de navettes complexes entre chambre basse, chambre haute, Assemblée nationale, Sénat, telle qu'elle fonctionne sous les feux de la rampe médiatique, puisque les débats sont accessibles, l'ensemble des textes que je cite sont accessibles sur les archives mises en ligne de l'Assemblée nationale. L'idée, c'est donc qu'un système aussi complexe qu'une république parlementaire comme la République française pourrait être d'une certaine manière complètement dévoyé ou fourvoyé simplement par l'activité de quelques députés qui se feraient l'écho de requêtes particularistes. Alors je pense personnellement, c'est un des points de départ de l'ouvrage, que c'est une hypothèse qui est extrêmement fragile lorsqu'on essaye de la vérifier, c'est ce que je vais vous montrer. Et d'autre part, c'est une hypothèse qui, même si elle dit une part de vérité sociologique sur le fonctionnement de notre système politique, ne pose pas nécessairement les bonnes questions. Et c'est donc là-dessus que je vais maintenant faire une série de remarques. Tout d'abord, donc, ces articles qui ont mis en cause l'entrisme de quelques-uns, de députés dits à coquiner à des associations, soit de rapatriés, soit de défense de la mémoire de l'Algérie française et de son combat politique, ces analyses ont érigé en objet de leurs propos ces associations de rapatriés, beaucoup plus que les députés qui, à un moment donné, se sont fait les porteurs au sein de l'enceinte parlementaire, de positions défendues par ces associations. Et donc, finalement, on a un peu négligé, par exemple, de faire une chose toute simple, qui était la biographie politique collective, un exercice de prosopographie relativement classique, sur les trajectoires du groupe des députés, en l'espèce de la majorité parlementaire de droite, qui étaient les plus impliqués dans l'élaboration, le vote et ensuite la défense de la loi du 23 février, au profit plutôt donc d'une attention donnée aux associations de rapatriés et aux associations de défense de la mémoire de l'Algérie française, comme l'a dit Mad. Donc finalement, on a présupposé qu'on connaissait le personnel politique parlementaire, ses députés, alors qu'en fait, on a très peu travaillé sur leurs caractéristiques objectives. Et finalement, ça ne permet pas de poser tout un ensemble de questions, ce que je vais vous montrer par la suite. Deuxièmement, cette hypothèse, quand bien même elle serait vraie, et d'ailleurs mon propos n'est pas forcément de la contester comme opérateur de questionnement, quand bien même cette hypothèse serait vraie, elle ne répond pas à une question qui, à mon avis, est fondamentale dans cette histoire, qui est pourquoi ces requêtes d'associations de rapatriés, de défenseurs de la mémoire politique du combat de l'Algérie française, sont-elles devenues discibles à un moment donné et pas à d'autres? Et pourquoi en particulier sont-elles devenues discibles politiquement, c'est-à-dire discibles par des parlementaires dans l'enceinte de la représentation nationale, en 2005 et pas avant? Alors, c'est une question qui peut paraître rhétorique, mais lorsqu'on y regarde d'un peu plus près, on se rend compte qu'il n'y avait pas finalement de raison que le débat par lui-même ait lieu en 2005 et pas auparavant, parce que l'on avait connu déjà des moments extrêmement forts de polémiques, de débats qui ressurgissaient sur la question de la mémoire de la guerre d'Algérie, sur la question de la pratique institutionnelle ou individuelle de la torture par les forces armées françaises en Algérie, déjà en 2000, 2001 et 2002. S'il y a eu des années d'effervescence, de bouillonnement autour de la question de la guerre d'Algérie, c'était plus particulièrement 2001-2002. Donc un certain nombre de rappels. En 2000, un article du Monde publie le témoignage d'une jeune Algérienne à l'époque, sous son pseudonyme Lila, qui raconte les tortures dont elle a été victime de la part d'officiers parachutistes français. La publication de cet article dans Le Monde donne lieu à un immense débat public avec l'intervention d'un certain nombre d'officiers d'active ayant servi en Algérie. En 2000, c'est également la publication, et c'est déjà manière de répartie à ce débat, du livre blanc de l'armée française en Algérie, hein, où 300 officiers d'active qui ont servi en Algérie tiennent à exprimer rétrospectivement le sens qu'ils ont donné à leur présence militaire sur le territoire algérien. Et à nouveau, c'est un moment d'extrême débat ne serait-ce que le fait que donc collectivement d'anciens militaires gradés ayant servi en Algérie décident de s'exprimer dans un livre blanc. 2001, c'est la publication du livre qui est un livre d'aveu de Paul Ossarès qui provoque le débat que l'on sait, dans lequel Ossarès reconnaît très explicitement avoir participé à un certain nombre d'exactions, ce qui lui vaut les ennuis judiciaires et de retrait de sa Légion d'honneur que l'on sait. À nouveau, 2001 est une année extrêmement vigoureuse sur le plan donc du débat autour des mémoires de la guerre d'Algérie. 2002 est également une année qui est de ce point de vue-là extrêmement intense, avec la diffusion sur les chaînes nationales de documentaires, celui de Patrick Rothman, L'ennemi intime, et celui de Jean-Charles Deniau, Parole de tortionnaire, où l'on voit des appelés du contingent témoigner pour la première fois, 40 ans après les faits, de ce qu'ils ont pu voir, entendre donc dans des centres de détention et d'interrogatoire en Algérie. On a donc dans ces années 2000-2002 tout un ensemble de débats qui sont extrêmement violents. On a tout un ensemble de paroles qui émergent dans l'espace public, ou du moins qui deviennent audibles dans l'espace public, comme la parole des appelés du contingent. Et pourtant, il n'y a pas à ce moment-là de tentative politique constituée, ou en tout cas pas de tentative politique suffisamment dense pour avoir des chances d'aboutir. Et donc finalement, ce débat a lieu en 2005. Il y a donc une temporalité politique précise derrière ce débat et derrière donc la production de la loi du 23 février. Alors, bon, évidemment, la temporalité politique qui est derrière la production de cette loi du 23 février, si on la restitue, on donne déjà un certain nombre d'éléments de réponse à la question de la naissance, de la genèse de ce texte. Et vous m'aviez demandé de mettre plus particulièrement l'accent sur la genèse de cette loi du 23 février, de restituer les débats politiques et parlementaires. Donc je vais simplement vous livrer un récit, évidemment le plus résumé possible, de la trajectoire institutionnelle de ce texte qui va devenir la loi du 23 février. Manière de dire que cette trajectoire est assez longue, elle se compte en années et non pas en mois, ce qui est déjà manière de dire que cette loi du 23 février, ça n'est pas l'égarement temporaire de quelques-uns, ça n'est pas un espèce de coup d'éclat improvisé d'une poignée de députés, c'est un texte qui a une histoire, et c'est un texte qui a une histoire relativement longue, du moins à l'échelle du fonctionnement de nos institutions. Alors, je rappelle donc pour mémoire que Jean-Pierre Raffarin, quelques semaines après avoir été nommé à la fonction de Premier ministre, décide de créer une mission interministérielle aux rapatriés qui donnera donc dans son sillage naissance à un Haut Conseil des rapatriés, créé en décembre 2002, et que c'est par l'entremise de cette institution que se fait jour l'idée d'un projet de loi concernant l'harmonisation des dispositions d'aide, en particulier financières, des pensions, etc., concernant les rapatriés d'Algérie et également les harkis, les membres donc des anciennes forces supplétives de l'armée française en Algérie. Alors j'insiste déjà sur ce point, c'est-à-dire que c'est un projet de loi et pas une proposition de loi. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui dépose un projet de loi, ce n'est pas des députés qui déposent une proposition de loi. Donc au départ, la nature propre de ce texte est gouvernementale et non pas législative. Il faudra attendre mars 2003 et une proposition déposée par une centaine de députés de la majorité emmenée au sens parlementaire du terme par Philippe Douste-Blazy pour que les parlementaires viennent à l'appui de ce qui est au départ une initiative gouvernementale. Donc un projet de loi et non pas une proposition. Un projet de loi, ce qui implique la désignation d'un rapporteur, est l'un des tournants dans l'histoire de ce qui va devenir la loi du 23 février, c'est très probablement la remise du rapport de Michel Diefenbacher en septembre 2003. Le Premier ministre lui commande donc un rapport qui doit servir de base à l'élaboration d'un projet de loi en concertation avec le Haut Conseil des rapatriés afin qu'il soit donc déposé devant la représentation nationale. Je dis que ce rapport est un tournant parce que finalement, au départ, tel que le projet de loi est libellé dans les instructions du Premier ministre, ce doit être un texte qui concerne pratiquement exclusivement des dispositions financières budgétaires. C'est un texte qu'on qualifierait en langage parlementaire de texte de dispositions financières et budgétaires. Il s'agit d'harmoniser des dispositifs d'indemnisation, d'aides spécifiques, de pensions spécifiques pour les rapatriés d'Algérie et les harkis. Et on est là dans la temporalité d'un mouvement harki qui a fait connaître de manière très forte dans l'espace public ses revendications entre 2001 et 2003. Et il y a un peu, pour aller très vite, l'idée qu'il faut mettre un terme à la revendication des communautés harkis en harmonisant des dispositions fiscales et budgétaires. Donc au départ, il n'y a pas de grand discours politique sur le rôle positif de la colonisation française dans les attendus du projet de loi. C'est important parce que ça veut dire que pendant tout un moment, ce texte n'apparaît pas, y compris aux yeux de la gauche parlementaire, comme un texte de glorification de la période coloniale française, du rôle civilisateur de la France dans ses colonies, etc. C'est un texte qui est un texte finalement de dispositions fiscales, budgétaires, etc. Simplement, on voit déjà dans le rapport Diefenbacher se profiler un certain nombre de propositions qui seront l'armature de la loi, du texte final, de la loi du 23 février. En particulier, on voit ce qui est l'ancêtre de l'article 4, qui est la proposition numéro 5 du rapport Diefenbacher, créer un groupe de réflexion sur la question de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, au sein du ministère de l'Éducation nationale. Vous voyez qu'on est quand même assez loin de ce qui va devenir l'énoncé prescriptif de l'article 4. Autre proposition, qui elle est déjà formulée telle qu'elle sera dans le texte final, c'est la proposition de reconstitution des droits de retraite pour un certain nombre de gens qui avaient été empêchés par l'exil ou par des condamnations judiciaires, d'exercer leur activité civile en relation avec la guerre d'Algérie avant l'amnistie de 1968. Si on décode cet énoncé, ça vise très directement un certain nombre de condamnés amnistiés de l'OAS, qui par définition avaient dû s'exiler lorsqu'ils avaient échappé à la poursuite judiciaire. Il faut noter aussi, pour être tout à fait exact, que ça pouvait concerner aussi des gens, entre guillemets, de l'autre camp, c'est-à-dire, par exemple, des gens des réseaux de porteurs de valises pro-FLN qui auraient été également condamnés ou auraient dû s'exiler avant 1968. Mais on trouve donc avec cette proposition, qui est la proposition numéro 23 du rapport Diefenbacher, ce qui va devenir l'article 13 de la loi du 23 février. C'est d'autant plus important que l'article 4 a été abrogé, mais pas l'article 13. L'article 13 a été mis en application, comme je le signalerai tout à l'heure. Je passe évidemment très rapidement pour tenir les délais qui me sont imposés. En mars 2004, un projet est formulé, énoncé pour le compte du ministère de la Défense par Michel Alliot-Marie. Donc on voit à nouveau intervenir un jeu qui est un jeu gouvernemental, beaucoup plus que parlementaire. Simplement, je vais faire une petite citation très rapide. Donc il s'agit du projet de loi du ministère de la Défense présenté par Michel Alliot-Marie. Durant sa présence en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ainsi que dans les territoires anciennement placés sous sa souveraineté, les apports de la France ont été multiples dans les domaines scientifiques, techniques, administratifs, culturels et aussi linguistiques. Des générations de femmes et d'hommes, de toutes conditions et de toutes religions, issus de ces territoires, comme de toute l'Europe, y ont construit une communauté de destin et bâti un avenir. Grâce à leur courage, leur esprit d'entreprise et leur esprit de sacrifice, ces pays ont pu se développer socialement et économiquement. Pendant trop d'années, notre œuvre collective réalisée en Afrique du Nord et sur d'autres continents a été niée ou ignorée, et il est temps aujourd'hui de la reconnaître. Là, on voit à nouveau une inflexion dans le parcours de ce qui va devenir la loi du 23 février. On est parti d'un projet de loi technique, budgétaire, fiscal, et là, on voit survenir ou intervenir donc, dans le processus deux arguments. Le premier, c'est l'exportation de la modernité et du développement en direction des anciens domaines coloniaux. Il est dit très explicitement, c'est grâce au courage, à l'esprit d'entreprise et à l'esprit de sacrifice d'agents du processus de colonisation français et de colons installés dans les domaines coloniaux que donc ces pays ont pu se développer socialement et économiquement. Il peut y avoir tout un tas d'implications secondaires, qui est que sans cet apport de la colonisation, ces pays n'auraient pas pu se développer, n'auraient pas accédé à une modernité scientifique, culturelle, etc. Le deuxième argument qu'on voit apparaître dans cet énoncé, c'est l'idée que les aspects positifs donc, de cette œuvre française outre-mer ont été, je cite, « niés ou ignorés ». Et ça, c'est également quelque chose qui va être l'un des chevaux de bataille des parlementaires de l'UMP dans la défense du texte. C'est cette idée que la représentation nationale doit intervenir pour dire comment, d'une certaine façon, doit être écrite l'histoire, non pas parce que ce serait sa prérogative naturelle, mais parce que l'histoire a été mal écrite. Et que donc la représentation nationale doit intervenir de manière à corriger un récit qui a été mal écrit parce que écrit, alors je vous citerai plus tard les propos de Lionel Lucas par exemple, parce que ce récit a été écrit en gros par les vainqueurs anticolonialistes et non pas les vaincus de la décolonisation, c'est-à-dire fondamentalement aussi par des universitaires qui jadis avaient des cheveux longs et soutenaient les Khmers rouges, comme le dira un autre député dans les débats de novembre 2005. Donc c'est important parce que ça sera un des chevaux de bataille des députés que de dire « nous ne voulions pas intervenir ». En matière donc, de prescription de l'enseignement de l'histoire de la colonisation, nous y avons été contraints lorsque nous avons constaté que l'histoire avait été mal écrite, avait été écrite de manière biaisée, de manière unilatérale. Ceci vous explique aussi la violence de la réaction des historiens professionnels. C'est pas seulement l'article 4 qui a énervé les historiens professionnels, c'est également la tonalité des débats parlementaires dans lesquels leur travail était très directement mis en cause, dans lesquels on disait « cette histoire a été mal écrite ». Et donc, évidemment, ça a le don d'énerver un historien que de lui annoncer qu'il a mal travaillé pendant toutes ces décennies. J'essaye d'avancer rapidement, mais en essayant quand même de baliser des étapes importantes. Un deuxième rapporteur sur ce projet pour l'Assemblée nationale est désigné, c'est le député des Bouches-du-Rhône, UMP, Christian Kerr, qui va rendre un rapport, le rapport Kerr, qui est introduit à nouveau, une petite nouveauté dans ce processus. C'est dans le rapport Kerr que se trouve développée de la manière la plus conséquente, tout au long donc, de ce processus, l'idée que l'État doit intervenir sous forme de politique publique dans le domaine de la mémoire nationale. Traduction, c'est dans le rapport Kerr en particulier que se trouve avancée l'idée que l'État doit reconduire son engagement en faveur de la création d'un musée de l'Algérie, alors après de la guerre d'Algérie, des événements en Algérie, etc., à Marseille, le projet donc du parc Chanot. Mais ce qui est très fort dans le rapport Kerr, c'est cette idée que l'État doit être partie prenante et créer de véritables politiques publiques de la mémoire, que l'État doit, très concrètement aussi, mettre la main à la poche pour aider à bâtir des mémoriaux, ouvrir des musées, etc. Juin 2004, on arrive au débat en commission, c'est-à-dire qu'une commission de l'Assemblée nationale délibère à la suite du rapport Kerr sur le projet de loi, qui est donc le projet de loi Alliot-Marie. Et dans ces débats en commission, il y a deux choses qui sont très frappantes. Je vais évidemment très très vite. La première chose, c'est que donc dans le projet de loi tel qu'il arrive devant la commission à l'Assemblée nationale, l'article 4 n'existe pas. L'article 4 n'existe pas sous cette forme. Et l'article 4 tel qu'il va finalement sortir du chapeau des débats de la commission, est un article improvisé par regroupement d'un certain nombre d'amendements demandés et discutés par les députés en commission. Autrement dit, il faut prendre aussi la mesure de ce qu'est la routine du travail parlementaire, la manière dont, dans une commission, les gens arrivent avec des dizaines de propositions d'amendements. Il faut négocier, y compris entre forces politiques, quels amendements seront retenus. Il faut, le cas échéant, synthétiser les amendements pour trouver une forme de compromis politique. Et c'est de ce travail, d'alchimie du travail parlementaire en commission, que naît l'article 4. Pour preuve, celui qui va formuler ce qui va devenir l'article 4 quasi mot à mot, ça n'est pas quelqu'un qu'on connaîtrait auparavant pour ses positions très engagées en faveur de la mémoire du combat de l'Algérie française, qui aurait des relations privilégiées avec des associations de rapatriés extrêmement puissantes. C'est le député du Parti socialiste du Puy-de-Dôme, Alain Néry, que par ailleurs, personnellement, j'ai connu. Quelqu'un dont on ne peut pas dire que sa carrière politique soit marquée au sceau de la défense du combat de l'Algérie française ou de ses relations privilégiées avec les rapatriés. Ce qui m'amène au deuxième point, ce qui est très frappant dans ces débats donc de juin 2004, qui vont mener au texte final de la loi, c'est que la gauche suit. Il y a des députés de gauche qui sont présents dans cette commission qui examine le texte. Et soit ils ne disent mot, soit ils consentent explicitement. Bon, s'il faut donner des noms après tout, il y a François Liberty, qui est un député communiste de Sète. Il y a Jacques Bacou, qui est un député socialiste de l'Aude. Et il y a Kléber Mesquida, qui est un député socialiste de l'Hérault. Et Kléber Mesquida, qui évoquera lui-même l'intérêt du texte pour rendre hommage à l'œuvre civilisatrice de la France. Donc vous voyez que ce qui vont devenir les lignes de bataille politiquement constituées, alignées sur des positions de partis politiques, sont encore très très floues au moment où l'on est encore dans la négociation de la version finale du texte. Examen au Sénat en décembre 2004 du texte, donc navette. Personne, à nouveau, n'émet d'objection de fond sur ce texte. Et là, l'article 4 et l'article 13 sont dans leur forme finale. Personne à l'exception d'un sénateur. C'est le sénateur communiste des Bouches-du-Rhône, Guy Fischer, qui est le seul à s'indigner au nom de principes anticolonialistes. Il faut le citer, le propos est rare et mérite donc d'être cité. J'avoue avoir été profondément choqué par l'emploi des termes néocolonialistes et révisionnistes à l'Assemblée nationale. Le comble enfin réside dans l'article 6, c'est le futur article 13, sur la réhabilitation financière, le versement de pensions forfaitaires aux anciens condamnés amnistiés, en particulier de l'OAS. Il s'agit rien moins, donc nous explique ce sénateur communiste, que de finir de réhabiliter des activistes d'extrême droite, des tortionnaires qui avaient fui à l'étranger avant d'être amnistiés, voire cela après m'être battu pour la reconnaissance de l'état de guerre en Algérie, je me crois revenu 40 ans en arrière, je considère que c'est indigne de notre nation. Voilà à peu près le seul propos qui, du côté de la gauche parlementaire, se réclamera explicitement de la tradition anticolonialiste historique avant que le texte, in fine, ne soit donc adopté le 10 février, promulgué le 23 février. Voilà, c'était simplement pour vous redonner quelques étapes, pour vous montrer que le processus a été long et complexe, beaucoup plus donc que l'hypothèse du complot de quelques députés ou du coup improvisé de quelques députés ne permet en tout cas de le dire. Alors j'en viens à la deuxième question de l'hypothèse du complot, c'est la question des liens clientélaires entre un certain nombre de députés, en l'espèce de la droite de gouvernement, et des associations de rapatriés et des associations de défense du combat de l'Algérie française. Alors mon propos n'est pas de dire que ces liens n'existent pas, c'est-à-dire autrement dit que certains députés n'avaient pas des relations privilégiées avec certaines de ces associations. Et la chose est par ailleurs depuis lors clairement documentée, elle est d'autant mieux documentée qu'elle n'a jamais été cachée. Il y a quelque chose d'embêtant aussi avec cette hypothèse du complot ou de la conspiration, c'est qu'un complot ou une conspiration, en général, privilégie le secret et la clandestinité. Ce qui n'est pas du tout le cas des liens qui s'étaient tissés entre députés et associations, et ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, d'une association comme l'ADIMAD, qui est une association d'anciens détenus de l'Algérie française. Si vous allez sur le site de l'ADIMAD, vous avez l'ensemble des documents, y compris les lettres que l'ADIMAD, par exemple, écrit à tel ou tel député ou sénateur pour réclamer ceci ou cela. Et de manière générale, tous les propos, toutes les requêtes de ces associations sont publiques, accessibles par le net, dans leurs publications, etc. Donc voilà un complot, en tout cas, qui s'est déroulé à ciel ouvert, du moins avant qu'on ne le qualifie comme tel. Donc il existe des liens constitués. On peut mentionner les liens entre, par exemple, Christian Kerr, qui était donc l'un des rapporteurs, et l'Enfanoma, qui est donc l'une de ces associations. On peut mentionner aussi le fait que lorsque Christian Kerr a rédigé son rapport, il a procédé à un certain nombre d'auditions. Il a fait comparaître des gens en qualité de témoins ou d'experts pour pouvoir rédiger son rapport. Et un certain nombre de personnalités qu'il a invitées à comparaître n'étaient pas neutres du point de vue de leur témoignage. C'est en particulier le cas de Maurice Fèvre, qui est un ancien officier supérieur qui a participé à la guerre d'Algérie, qui est présenté dans le rapport Kerr comme historien. C'est aussi un des co-auteurs du livre blanc de l'armée française en Algérie. C'est quelqu'un qu'à tout le moins, on n'aurait pas naturellement tendance à présenter comme un historien de métier impartial. D'autant que c'est le seul historien, entre guillemets, qui a témoigné lors des auditions organisées par Christian Kerr. Aucun historien spécialiste de la guerre en Algérie n'a été invité à témoigner. Également, lors de ces auditions, Christian Kerr a auditionné un des membres du bureau de l'ADIMAD, cette association, qui avait été en particulier impliquée dans l'affaire de l'érection de la stèle de Marignane en juillet 2005, qui est une stèle donc en l'honneur des martyrs du combat de l'Algérie française. Autre exemple de lien privilégié, peut-être, qui s'était tissé entre députés et milieux rapatriés Algérie française, ce qui n'est pas la même chose, c'est le cas de Michèle Tabarot, qui est la députée UMP des Alpes-Maritimes, et qui se trouve être la fille de Robert Tabarot, qui a tenu donc un rôle important dans la branche civile de l'OAS dans les années donc de combat. Donc on voit que cette thèse du complot ou de la minorité d'influence, quand bien même elle dit des choses évidentes, à savoir que des députés ont rencontré des associations de rapatriés, les ont écoutés, ne tient pas comme thèse de la minorité d'influence qui, du jour au lendemain, a tout fait ou tout défait. Et je vais lister un certain nombre d'arguments qui permettent d'en douter encore plus. Premier argument, c'est que pour que la thèse tienne, donc la thèse de la relation clientélaire solidifiée entre des députés et des associations de rapatriés ou de défense du combat de l'Algérie française, relation donc qui supposerait un échange de services, c'est-à-dire de la production de votes de la part des associations de rapatriés et de la part des députés, la promesse, en l'espèce tenue, donc de déposer, de défendre un projet de loi comme la loi du 23 février. Cette hypothèse pour tenir suppose tout un ensemble de choses, en particulier que les associations de rapatriés contrôlent le vote, contrôlent du moins un nombre conséquent de votes dans les milieux rapatriés. Alors, là, évidemment, ça ne tient pas pour tout un ensemble de raisons. D'abord parce que les études locales, il y a un certain nombre d'études sociologiques ou ethnographiques d'associations de rapatriés, en particulier, il y en a une d'ailleurs pour Toulouse qui est extrêmement intéressante sur ce plan. Toutes les études dont on dispose, il n'y en a pas énormément, mais on en a quand même quelques-unes, montrent que quand bien même des associations locales de rapatriés produisent des consignes de vote, c'est-à-dire incite à voter pour tel ou tel candidat, ces consignes de vote sont très peu suivies. Elles sont encore moins suivies parmi les deuxième ou troisième générations, c'est-à-dire parmi les enfants ou les petits-enfants de rapatriés d'Algérie, c'est-à-dire des gens qui avaient connu à la première personne l'expérience de l'exil. Autrement dit, les études disponibles montrent que les associations de rapatriés, quand bien même elles produisent des consignes de vote, ne sont pas suivies, ce qui d'ailleurs est assez logique. On est quand même dans un pays où on vote à bulletin secret, où personne ne va vérifier normalement dans l'isoloir ce que vous déposez. Donc vous pouvez bien promettre de voter pour, ça n'empêche qu'à la sortie, si on fait donc des études par bureau de vote, on se rend compte que les consignes de vote, ça marche relativement mal. Deuxièmement, ces associations de rapatriés ne sont pas nécessairement représentatives du milieu au nom duquel elles entendent parler. Et on voit en particulier, lorsque on regarde les événements dans lesquels ces associations sont impliquées, qu'il y a un vieillissement très accéléré du militantisme dans ces associations. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, par exemple, les vidéos de l'érection de la stèle de Marignane, il faut dire que la moyenne d'âge est ce qu'elle doit être pour des gens qui avaient vécu à la première personne l'exil de 1962. C'est-à-dire que la moyenne d'âge est très élevée, 65-70 ans. Donc on a des associations qui, quoi qu'elles en disent, ne contrôlent pas les votes lorsqu'on peut le vérifier bureau par bureau. On a des associations, d'un autre côté, qui vieillissent avec un investissement problématique, nous disent à nouveau les études des générations suivantes dans leurs activités. Et donc, on n'a pas des acteurs politiques extrêmement forts, constitués, avec lesquels négocier irait naturellement de soi pour un député. Deuxième argument, c'est que finalement, si on réfléchit à l'arithmétique du marchandage, elle n'est pas non plus complètement évidente. Pourquoi un député, ou d'ailleurs quelqu'un qui briguerait une mairie, risquerait-il, alors certes, de gagner 30 000 voix parmi, allons vite, les communautés rapatriées, mais risquerait dans le même temps d'en perdre 100 000. Puisque dans ces villes ou dans ces circonscriptions, il y a non seulement des rapatriés, mais il y a une gauche parfois anticolonialiste, et puis il y a aussi des gens qui sont issus de l'immigration en provenance d'Afrique du Nord, et qui donc ne voteraient pas pour un député si celui-ci faisait profession publique de foi, de réhabiliter le temps béni des colonies. Donc même la question de l'arithmétique du marchandage n'est pas évidente. Je ne vois pas pourquoi un député qui voudrait conquérir une ville comme Toulouse ou Montpellier mettrait tous ses œufs dans le même panier. Il a au contraire intérêt à multiplier le démarchage sectoriel auprès de différentes communautés. Ce qui m'amène au troisième point, qui est qu'on a beaucoup mis l'accent sur les visites aux associations de rapatriés ou la participation à un certain nombre d'événements organisés par ces associations dans l'agenda des députés de Christian Kerr, de Michel Diefenbacher, etc. Et on a dit, regardez, en janvier, il est allé voir telle association, en mars, il est allé voir telle autre, etc. Le problème, c'est qu'il faudrait regarder l'agenda en entier. On se rendrait compte qu'il est peut-être allé voir aussi quatre fois l'association des boulistes, et que ce n'est pas pour ça qu'on a construit un boulodrome géant dans la plupart des villes de France, ou qu'on a eu un rapport spécial sur la nécessité de boulodrome à tous les échelons. Je prends un exemple qui est volontairement caricatural, mais c'est le métier politique ordinaire d'un député que de passer ses journées à faire la tournée des popotes associatives, des représentants plus ou moins légitime et improvisé de communautés, etc., etc. Donc en soi, ces liens ne prouvent pas non plus qu'il y ait eu une espèce de grand complot politique clandestin. Et surtout, donc j'en viens au dernier point, et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, tout ça n'explique pas en particulier pourquoi ça marche, ça prend et ça se passe en 2005. Et c'est ce qui va me faire venir à ma deuxième partie, c'est la question des temporalités politiques spécifiques qui ont mené donc au vote de la loi du 23 février 2005. Donc si on se place cette fois du côté des députés, qu'est-ce qui fait qu'en 2005, un groupe de députés a décidé ou a du moins pensé qu'il était légitime, politiquement avantageux pour lui, donc individuellement pour chaque député, de se positionner particulièrement sur cette question dans l'enceinte parlementaire? Donc une deuxième partie, très rapide, un ensemble de réflexions également, sur l'ensemble des transformations de l'espace politique qu'il faut voir derrière cet événement du vote de la loi du 23 février. Alors comme je vous l'ai dit, on n'a finalement pas fait la biographie politique de ces députés. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout simplement repris ce qui était leurs éléments de trajectoire. Alors quand on regarde ces députés, moi j'ai isolé dans le livre un groupe de 17 députés de l'UMP, plus un, enfin, c'est un transfuge bon, de l'UDF, qui sont les plus impliqués en termes de nombre d'interventions dans la défense de la loi du 23 février lors des débats de novembre 2005, desquels je parlerai plus tard. Donc on prend ce groupe de gens qui sont vraiment ceux qui vont monter au créneau le plus souvent, qui vont monter au créneau également de la manière la plus structurée et agressive, et on regarde qui sont ces députés. Alors, nous, on nous a toujours dit, enfin, on disait à l'époque dans les explications, ce sont tous des députés du Sud, originaires de circonscriptions où il y a deux très fortes communautés de rapatriés, etc. Alors déjà, sociologiquement, c'est pas vrai. Il y a des députés qui étaient très impliqués dans ces débats et qui n'étaient pas représentants de circonscriptions du Sud, avec leurs particularités politiques. Par exemple, Christian Van Est, c'est un député de Tourcoing. Alors, je veux bien qu'on explique qu'il y a une immense communauté rapatriée à Tourcoing. En tout cas, l'argument du Sud, pied-noir, etc., ne tient pas pour un certain nombre d'entre eux. En revanche, il y a une caractéristique qui saute aux yeux immédiatement lorsqu'on reconstitue leur parcours politique, c'est que presque tous sont des nouveaux venus dans l'enceinte parlementaire en 2002. Autrement dit, dans l'échantillon que j'avais pris, 75% de ces députés ont été élus députés pour la première fois en 2002. C'était leur premier mandat politique national. Ces gens deviennent donc députés au moment même où, par définition, le Premier ministre Raffarin met en branle, avec la création de la mission interministérielle aux rapatriés, le processus qui va mener à la loi du 23 février. Ces gens n'étaient pas députés avant, et ces gens n'avaient pas auparavant d'expérience du débat politique au niveau national, pour la plupart d'entre eux. Ce qui ne veut pas dire que c'était des nouveaux venus de la politique en général, ce sont au contraire des gens qui avaient souvent exercé pendant de longues durées, 10, 12 ans, hein, pour certains d'entre eux, des mandats locaux, c'est-à-dire des mandats d'adjoint municipal, des mandats de maire, des mandats de conseillers régionaux, etc. Donc c'est des gens qui avaient une très forte expérience de la politique locale, de la manière dont on fait de la politique au niveau d'une mairie, au niveau d'un conseil régional, mais qui n'avaient pas d'expérience de la manière dont on fait de la politique au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui, en soi, est très important, parce qu'on sait très bien qu'il y a des manières de faire de la politique qui sont un peu différentes entre le plan local et le plan national, ne serait-ce qu'à cause de la différence d'exposition médiatique. C'est-à-dire que tenir un propos comme député sur le parvis de l'Assemblée nationale, ça a un effet médiatique, par définition nationale, extrêmement fort, quasi immédiat, etc. En revanche, au niveau des mairies, au niveau des conseils régionaux, il y a toute une politique, y compris de petits arrangements avec les médias locaux, où tout simplement les médias locaux ne couvrent pas la totalité des sessions de tous les conseils municipaux, etc., qui font qu'on peut parler politique différemment. Et d'une certaine manière, dans la façon dont certains de ces députés UMP, très impliqués dans le vote de la loi du 23 février, ont réagi lorsqu'ils ont été mis en cause, en particulier au moment des débats de novembre, il y a quelque chose qui révèle la non-maîtrise des codes politiques nationaux. Des gens qui, d'une certaine façon, ont continué à faire et à dire de la politique au plan national, comme ils la faisaient et la disaient au plan local, qui n'avaient peut-être pas pris la mesure, pour certains d'entre eux, de ce que le passage au plan politique et médiatique national impliquait un jeu avec les tabous de langage extrêmement différents. Ce qui peut expliquer aussi, à contrario, pourquoi un certain nombre d'entre eux se sont fait, pour aller vite, remonter les bretelles très fortement par les barons du parti, de l'UMP, et aussi par le château, c'est-à-dire par les conseillers du président Jacques Chirac. Donc, des nouveaux venus, qui avaient une expérience politique locale, mais pas nationale, qui arrivent portés par la vague bleue de 2002, qui ont un profil sociologique qui est pratiquement le même pour tous. Ce sont des notables locaux qui ont transformé leur capital d'enracinement local en capital politique à l'occasion des élections. Des gens qui avaient des trajectoires de notables de province, médecins, chirurgiens dans les hôpitaux, petits entrepreneurs issus du monde de la banque et de l'assurance, qui avaient donc une surface de notables locaux, mais qui n'étaient pas des hommes de parti. C'est pas des parachutés de parti, par exemple. C'est pas du tout des gens qui auraient fait carrière dans l'appareil partisan et qui ensuite auraient été parachutés dans les circonscriptions. C'est des gens qui se bâtissent une notoriété locale, qui sont approchés par les partis pour devenir candidats ou qui reconvertissent leur capital, leur carnet d'adresse local auprès des partis pour devenir candidats. Mais ça, c'est général à la vague, ce qu'on a appelé la vague bleue de 2002, où il y a eu beaucoup de nouveaux élus qui avaient ce profil sociologique. Deuxième caractéristique de ce groupe de députés, la quasi-totalité d'entre eux sont nés à la fin des années 40 et au début des années 1950. Et ça veut dire des choses très simples, qui est que, par exemple, la majorité d'entre eux avait entre 12 et 14 ans en 1962. La majorité d'entre eux avait 20 ans, 18, 19, 20 ans, en 1968, 1969, qui est un moment extrêmement important parce que c'est le moment où la mouvance gaulliste fixe, en particulier dans la négociation des lois d'amnistie, son rapport à ce qui va devenir le tabou de la guerre d'Algérie. Donc c'est des gens qui, à l'époque, avaient 18, 19, 20 ans. On peut estimer qu'ils étaient extrêmement précoces en politique, mais certainement pas qu'ils ont participé en nom propre, de manière efficace ou du moins importante, à ces débats de la mouvance gaulliste en 68-69. Ça veut dire, par exemple, prenons des exemples très concrets, quelqu'un comme Lionel Lucas, qui sera très fortement impliqué dans ce projet de loi, a 8 ans en 1962. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas derrière lui une appartenance familiale qui le prédispose à réinvestir cette question de son héritage de fils de rapatrié, etc. Mais ça veut dire que ce sont des gens qui, vous voyez, étaient très jeunes à des moments clés, les événements en temps réel de la guerre d'Algérie, 68-69, la fixation du rapport des gaullistes à cette question avec les lois d'amnistie, etc. etc. Ce ne sont pas des gens qui appartiennent à la génération donc de ceux qui étaient en charge, pour aller vite, à cette époque. Donc ça veut dire qu'on peut considérer qu'il y a aussi un effet de génération au sens propre qui est très important dans la constitution de ce groupe de députés et de ses prises de position. Et j'en viens à, moi, une question qui, d'instinct, et peut-être parce que je n'étais pas du tout spécialiste de cette histoire, m'a frappé, c'est qu'il y avait quand même une contradiction phénoménale dans le fait que des députés UMP, se réclamant donc d'une formation gaulliste, en soit venu à élaborer, faire voter et ensuite défendre une loi qui contient un article 13, qui est une réhabilitation de condamnés amnistiés de l'OAS, c'est-à-dire de ceux qui auraient été considérés 15 ou 20 ans auparavant seulement comme les assassins du général. Il y a une contradiction fondamentale à ce que ce soit tout de même des députés gaullistes qui aient porté ce type de texte. Donc ça veut dire que derrière cet effet de génération, derrière les particularités de cette génération de députés de la vague bleue de 2002, il faut aussi en revenir à une histoire un peu plus longue de la transformation de l'espace politique autour de cette question de la prise en charge de la mémoire de la guerre d'Algérie, etc. C'est ce que je vais faire à nouveau, évidemment, très rapidement, mais pour montrer que des choses qui avaient l'air, qui auraient pu avoir l'air évidentes ne l'étaient pas. Par exemple, ce lien qui a été présenté par naturel dans un certain nombre d'analyses entre la droite de gouvernement et les associations, les mouvements de rapatriés. Espèce de, ça s'est imposé comme mécaniquement, évidemment, c'était la droite, donc elle était proche des mouvements, des associations de rapatriés, etc. etc. Alors, rappelons simplement qu'au départ, un certain nombre de ces mouvements de rapatriés, en particulier le Recours, qui est un des principaux de ces mouvements dans les années 70, appelle au contraire à voter pour la gauche. En 1977, la consigne de vote officielle du Recours, créée par Rozeau et Forzy, c'est en faveur de Mitterrand. Et c'est complètement logique à l'époque, d'une part à cause évidemment de la haine anti-gaulliste qui s'est développée naturellement, enfin au sens propre, dans les milieux Algérie française, qui ont subi la chasse aux sorcières gaullistes, les arrestations, etc. Ça s'explique aussi par le fait que ces associations de rapatriés avaient énormément critiqué d'abord le gouvernement Chirac, 74-76, et le gouvernement Barre pour leur inaction en matière de, en particulier de, d'augmentation, enfin de réajustement des pensions, etc. Donc il y avait une critique conjoncturelle très forte, en particulier des Chiraciens, c'est-à-dire de ce qu'ils vont devenir les nouveaux gaullistes historiques après le coup réussi de Jacques Chirac. Et il faut se rappeler aussi à l'époque que Jacques Chirac définit ce qui va devenir donc, le RPR en opposition à Valéry Giscard d'Estaing, également sur le thème. Valéry Giscard d'Estaing, pas Giscard d'Estaing, VGE, ça va aller plus vite, VGE et ses barons, ce sont des hommes de l'Algérie française, ce sont des hommes de Vichy. Il y a, pour aller vite, une propagande chiracienne très anti-giscardisme sur le thème. Qu'est-ce qu'on a avec le giscardisme ? On a la droite compromise du passé. On a Vichy, et Vichy, très direct jusqu'à l'OAS, etc. Donc les chiraciens, à l'époque, se définissent en rupture avec les giscardiens, également en mettant en avant une rupture très forte par rapport au milieu Algérie française. Ce qui ne les fait pas apparaître, évidemment, comme des interlocuteurs privilégiés ou naturels pour un certain nombre d'associations de rapatriés. Donc, je vous l'ai dit, le recours émet une consigne de vote en faveur de la gauche, et c'est une consigne de vote qui sera suivie d'effets politiques, puisque l'un des premiers projets de loi déposé à l'initiative personnelle de François Mitterrand en 1982. C'est un projet de loi dit à l'époque d'amnistie totale qui concerne donc la guerre d'Algérie et qui provoque une crise colossale au sein de la majorité parlementaire socialiste. Donc c'est un projet de loi qui est voté, enfin qui est mis déposé devant l'Assemblée très rapidement après l'entrée en fonction des socialistes, et c'est ce projet de loi qui provoque la première rupture apparente de la majorité parlementaire socialiste. En particulier, donc, il y a dans ce projet de loi notamment un article qui concerne la réintégration symbolique dans le cadre d'actifs des généraux putschistes, donc peut-être pour très très vite, de blanchiment donc des acteurs du putsch. Et ça provoque une crise parce que un certain nombre de députés, notamment Richard, Pierre Joxe, Lionel Jospin, Michel Rocard, montent au créneau de manière extrêmement violente. Et si on veut résumer le débat, ce qu'on voit se cristalliser à l'époque, c'est aussi la distinction entre, on les appelait les jeunes loups à l'époque, hein, mais les gens qui sont issus de la tradition PSU et le PSU, à cause de Michel Rocard, avait été très précocement engagé dans la critique de la dérive militaire en Algérie, et de l'autre côté, ce qui sont les anciens caciques de la SFIO et de la FGDS, qui, eux, étaient acquis au principe de l'amnistie totale. C'est donc la pierre d'angle de ce qui est la coalition parlementaire mitterrandienne, PSU d'un côté, et puis, pour aller très vite, vieille gauche de l'autre, qui menace d'exploser en 82 à cause de ce projet qui vise très directement à répondre donc au dialogue noué avec les associations rapatriées. À tel point que le gouvernement fera adopter le texte en utilisant le 49-3, c'est-à-dire passera en force. Les députés, on est un an après l'élection, évidemment ne vont pas émettre un vote de défiance à l'encontre du gouvernement. Le gouvernement passe en force, mais ça convainc François Mitterrand qu'il ne bougera plus sur la question des rapatriés et, de manière générale, de la mémoire de la guerre d'Algérie, ce qui est évidemment senti et perçu comme tel parmi les associations de rapatriés, qui savent très bien que la gauche ne bougera plus sur ces questions à cause de la crise de 82. Je vais évidemment très très vite. C'est ce qui explique le retournement des consignes de vote du recours. Donc cette même association qui avait appelé à voter Mitterrand en 77, en 1986, appelle à voter Jacques Chirac, parce qu'elle estime que la gauche n'est pas allée assez loin et qu'à cause de la crise de 82, la gauche, de toute manière, ne pourra pas aller plus loin sur ce front-là. Donc c'est quelques rappels pour vous montrer que c'est une histoire politique qui est beaucoup plus compliquée qu'elle ne paraît a priori. Et c'est également un certain nombre de rappels qui visent à montrer qu'il n'y avait rien de naturel ou d'évident à ce que des députés se réclamant de l'héritage gaulliste, et s'en réclamant de manière explicitement, hein, gravissant le Mont-Valérien, etc., enfin organisant aussi la recomposition du parti autour du rattachement à la tradition gaulliste historique, qu'il n'y avait rien donc de naturel ou d'évident à ce que cette mouvance gaulliste fasse alliance avec, électorale tout du moins, avec des associations de rapatriés ou de défense de mémoire, de la mémoire de l'Algérie française. Et autrement dit, en 2005, il se produit quelque chose qui aurait été littéralement impensable 15 ou 20 ans auparavant, et je vous en donne un exemple très concret, c'est l'affaire Dominati. En 1980, en juin 80, Jacques Dominati, qui est à l'époque secrétaire d'État aux rapatriés, qui est un membre important hein, du premier cercle gaulliste, gaullien, participe à une cérémonie organisée par l'ADIMAD, donc cette amicale des anciens détenus de l'Algérie française, organisée à Toulon en présence de Jouot. l'un des généraux putschistes. Et donc Dominati est photographié ce jour-là aux côtés des membres de la DIMAD et de Jouot. Ça provoque au sein du mouvement gaulliste une crise phénoménale et tous les grands barons historiques du gaullisme vont monter au créneau en dénonçant la compromission de Dominati avec les assassins du général, le terrorisme OAS, etc. Et en particulier Pierre Messmer, qui fait une sortie publique terrible contre Dominati à l'occasion donc de cette affaire. Autrement dit, en 1980, quand des gaullistes s'affichent avec la DIMAD et des gens proches de l'OAS, ça fait scandale au sein de la mouvance gaulliste. En particulier parce que sont encore en vie les grands barons gaullistes qui ont été les pivots de la politique algérienne du général, qui ont vécu les événements en temps réel, etc. En 2005, ça ne fait plus tabou parce qu'une génération politique, pour les barons, est morte et pour une autre, est entrée en politique par des voies complètement différentes. Alors il y a dans la question donc, d'un peu plus long terme de l'ensemble de ces transformations politiques qui ont pu produire, qui ont pu rendre dissible donc, la loi du 23 février, l'apologie du temps colonial. Il y a une deuxième question que j'aborde dans Mémoire d'Empire, mais que j'aurais pu beaucoup plus développer. Et c'est une recension critique de l'ouvrage par une historienne de la guerre d'Algérie, Sylvie Thénault, qui m'a convaincu de l'idée qu'effectivement on aurait pu aller beaucoup plus loin. Donc Sylvie Thénault fait une recension de Mémoire d'Empire, par ailleurs fort sympathique. Elle dit simplement ce qui est peu exploré, c'est la question de l'absence de réflexes anticolonialistes du côté de la gauche parlementaire. C'est-à-dire que la question n'est pas seulement de savoir ce qui, à droite, a permis à cette nouvelle génération de députés de rompre avec l'héritage gaulliste historique, de se positionner différemment, etc. La question est aussi pourquoi, à gauche, on a eu ce silence immense et embarrassé, en particulier donc au moment du vote de la loi et des débats qui avaient précédé, et qui a fait dire, évidemment, au premier secrétaire du Parti socialiste, François Hollande, ça a été une inconséquence magistrale. Le fait est qu'il n'y a pas eu de réflexe anticolonialiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'espèce de réflexe spontané de dire « mais qu'est-ce que c'est que ce langage ?» Alors, ce n'est pas complètement vrai, parce que je vous ai cité tout à l'heure le propos de ce député communiste, Guy Fischer, qui lui a réagi au nom de la tradition anticolonialiste historiquement constituée dans les années 50 et 60, mais en même temps, il a été le seul. Et donc, la question que me pose Sylvie Thénault, par rapport en tout cas à cet essai, c'est de dire « est-ce qu'il n'aurait pas fallu réfléchir aussi dans la longue durée, enfin au moins à l'échelle des 20 ou 30 dernières années, à ce qui s'est passé pour que la tradition anticolonialiste ne soit plus portée d'instinct ou instinctive dans les députés de la gauche parlementaire. » Alors je pense qu'elle avait raison. Il y a quelques éléments de réponse dans le livre, mais je pense qu'on aurait pu développer. Et je pense, et là c'est un peu exploratoire ce que je dis, parce que j'y réfléchis beaucoup aussi pour cette présentation, qu'il y a effectivement eu deux ruptures très fortes dans le rapport entre anticolonialisme et gauche parlementaire, aussi bien socialiste que communiste. Vous le savez tous, mais je le rappelle, il y a d'abord une première crise dans la transmission de l'héritage anticolonialiste en 1968. Parce qu'en 1968, vous le savez, émerge un autre anti-impérialisme à l'extrême gauche, dans les mouvements maoïstes et trotskistes, qui n'est plus référé à la tradition anticolonialiste universitaire et très fortement communiste des années 50, mais qui est référé en particulier à la lutte en faveur du peuple vietnamien agressé par les États-Unis. Autrement dit, 1968, on peut élargir, c'est 68-72, dans le monde de l'extrême-gauche de l'époque, il y a un changement complet de répertoire. On abandonne le répertoire anticolonialiste très franco-français, enraciné dans l'université, les milieux étudiants et une frange du Parti communiste, pour basculer vers un répertoire anti-impérialiste, beaucoup plus internationalisé, et en rupture très forte avec le positionnement communiste sur la guerre d'Algérie, ce qui a aussi poussé beaucoup de gens vers les groupuscules et vers le militantisme anti-impérialiste, donc anti-américain, etc. Ça a été l'accusation selon laquelle le Parti communiste était resté toujours fondamentalement ambigu sur la légitimité de la lutte de libération nationale algérienne. Donc il y a une crise très forte, je crois, en 68-72, de transmission de l'héritage anticolonialiste avec l'émergence de toute cette nouvelle génération d'acteurs anti-impérialistes référés à d'autres choses que les combats des années 50 et du tout début des années 1960. Il y a un deuxième moment de rupture, et c'est sur celui-là que je vais conclure la présentation, c'est un peu l'ossature de la troisième partie. Il y a une crise très forte aussi dans les années 1980 entre le Parti socialiste et un certain nombre de mouvements de défense des droits des immigrés qui vont devenir le mouvement autonome de l'immigration. C'est important de rappeler ces ruptures, c'est-à-dire à la fois celle de 68-72 et celle du milieu des années 1980, parce que ça explique pourquoi, en particulier, la gauche parlementaire, socialiste et communiste, ne pouvait pas se positionner facilement dans ce débat et ne pouvait pas, en particulier, s'aligner sur les positions d'un collectif militant comme celui des indigènes de la République. Donc c'est ce que je vais vous dire en troisième et dernière partie. C'est en gros la question postcoloniale. La question postcoloniale qui est rentrée dans le débat public avec, vous le savez tous, la publication de l'appel des indigènes de la République le 16 janvier 2005, texte qui était en gestation depuis déjà plusieurs mois. Cet appel des indigènes, je suis obligé évidemment d'aller très très vite parce que je vois que le temps là, vraiment m'est de plus en plus compté, c'est l'expression ou la cristallisation d'un front militant qu'on voit très bien se dessiner en particulier en 2004. Il y a des généalogies plus profondes, mais il y a un moment de rapprochement ou de rassemblement tactique militant très fort en 2004 autour de deux questions. D'une part, la protestation contre les travaux de la commission Stasi et la loi dite sur le voile, et d'autre part, l'affaire du RERD. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, bon, la loi sur le voile, évidemment, mais l'affaire du RERD, c'est en gros la fabulation, le fantasme d'une jeune femme qui explique avoir été agressée et injuriée en termes xénophobes, antisémites, racistes, par des jeunes qu'elle décrit comme étant issus de l'immigration maghrébine dans la ligne du RERD. Or, il se trouve que c'est de la fabulation pure, mais qu'avant même qu'on se soit interrogé sur la réalité de son propos, il y a eu un déferlement médiatique. Les journaux ont titré « Des bandes de jeunes maghrébins agressent les jeunes femmes dans le RER », etc. etc. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à cette occasion qu'un certain nombre de mouvements militants se sont visibilisés, enfin se sont fait connaître, et en particulier que Ouria Boutelja, qui sera importante dans le mouvement des indigènes et dans les débats sur la rédaction de cet appel, a publié un texte, bon, là j'ai pas le temps de vous le lire, mais où on voit se mettre en place ce qui va être la rhétorique militante de l'appel des indigènes. Donc un front militant cristallisé en 2004 autour de ces deux affaires, et un front militant qui a une deuxième particularité, c'est celle-là qui m'intéresse ici, c'est qu'il est dès le départ évidemment hétérogène, mais ça comme tous les fronts militants, qui ont essentiellement pour objectif de produire des effets tactiques, et pas nécessairement de se marier ad aeternam, mais surtout il est composé d'un ensemble d'associations qui, pour certaines d'entre elles, ont une caractéristique, c'est d'être très ouvertement et très radicalement antisocialistes. Et c'est en particulier le cas, par exemple, de tout un ensemble de mouvements qu'on appelle le mouvement autonome de l'immigration. C'est le cas aussi d'une fraction du mouvement de l'immigration et des banlieues, dans leur critique, par exemple, extrêmement vive du parrainage socialiste du mouvement SOS Racisme dans les années 1980, avec l'idée que la gauche socialiste a produit un antiracisme folklorique, de la poudre aux yeux, des paillettes, et a désinvesti le terrain crucial qui était celui des politiques de la ville. Et donc, en gros, il y a eu une espèce d'effet de manche de la gauche socialiste, dont SOS Racisme a été le fer de lance. Je veux quand même vous donner une ou deux citations rapides. Donc voilà par exemple comment le mouvement de l'immigration et des banlieues, dans un texte qui est en fait un texte qui narre un certain nombre d'événements ayant présidé à sa fondation, c'est un mouvement qui a toute une histoire, parle de SOS Racisme. L'exocète SOS Racisme, dirigé depuis l'Élysée, crée la confusion dans les esprits et marginalise pour quelques années les velléités d'auto-organisation des jeunes de l'immigration et des cités. Toute la gauche s'y met. Le PS se servira du Front National pour embrouiller la droite et de SOS Racisme pour la bonne conscience. La fronde des beurs contre l'hégémonie de la petite main et de la manipulation du PS n'y change rien. C'est le règne de l'antiracisme folklorique où l'apparence est plus importante que la réalité. On retrouve cette critique de mouvements proches de la gauche socialiste dans un autre registre, en particulier dans le registre de la critique du mouvement Ni pute ni soumise. Voilà la manière dont Ouria Boutelja parle de Ni pute ni soumise. C'est intéressant, je vais quand même lire, c'est un peu long, mais je trouve que le texte est intéressant. Tout se passe comme si, au tournant du siècle, les classes dirigeantes, quel que soit le pôle, parti socialiste ou UMP, avaient été prises de panique devant la mise en crise de l'ordre symbolique colonial et devant l'émergence de diverses manifestations identitaires, religieuses, culturelles, sociales et politiques, dont le point commun était la rupture avec le devoir de réserve et d'humilité imposé aux descendants de colonisés. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les ô combien opportunes, ni putes, ni soumises. Si l'on se souvient de la véhémence des réactions de l'UMP parisienne, mais aussi du courant chevènementiste, face à ce début de retour critique sur la période coloniale, on comprend mieux le rôle qu'a joué ce mouvement courant 2002, je cite toujours, celui d'un appareil idéologique au service d'une classe dirigeante prise de panique. Donc voilà, donc, dans un autre registre, décliner une rhétorique très ouvertement antisocialiste et très ouvertement dirigée contre, en l'espèce, ni pute ni soumise, qui, de la même manière que SOS Racisme, est considérée, pour aller vite, comme ayant fait partie du problème beaucoup plus que de la solution. Alors c'est important de rappeler ça, parce que ça veut dire que du côté des parlementaires du Parti socialiste, et par extension, je n'ai pas le temps d'en parler, mais du Parti communiste aussi, il est très difficile dans ces conditions, en 2005, de se poser comme relais naturel de l'anticolonialisme, de relais naturel de l'anti-impérialisme, etc., quand on est non seulement complètement désavoué, mais aussi très concrètement complètement débordé par un mouvement militant qui vous accuse d'avoir été partie prenante du problème beaucoup plus que de la solution. Autrement dit, le réflexe anticolonialiste n'a pas joué, peut-être à cause de ces grandes ruptures historiques dans la transmission de son héritage, de ses réflexes, mais aussi parce qu'à partir du début des années 80, on voit très concrètement se dissocier un mouvement autonome de l'immigration et de façon plus générale un certain nombre de collectifs militants et de l'autre côté, la gauche institutionnelle et ses relais associatifs traditionnels. Donc quand bien même des députés du Parti socialiste auraient voulu prendre le train en marche, et donc sauter dans le train en marche des indigènes de la République, de toute manière, ceci ne leur aurait pas permis, les ayant désavoués radicalement. Alors, je vais conclure. Donc je vais conclure en disant qu'en fait, peut-être le moment le plus intéressant de débat autour de la loi du 23 février, c'est en novembre 2005. Parce que donc en novembre 2005, s'étant réveillée durant l'été, la gauche parlementaire et une partie de l'UDF déposent une proposition de loi visant à l'abrogation de l'article 4. Proposition de loi qui d'ailleurs ne sera pas votée, la majorité UMP restera chevillée à l'article 4, et comme elle est majoritaire, par définition, la loi ne sera pas abrogée par voie législative. C'est ce qui explique la sortie de crise dont je parlais au début de l'intervention, l'appel présidentiel à l'arbitrage du Conseil constitutionnel. Mais ces débats sont extrêmement importants parce que c'est au cours de ces débats que les députés UMP argumentent le plus en faveur de la loi, et que les députés de gauche argumentent le plus contre la loi. Donc autrement dit, c'est vraiment en novembre en fait, que tout se dit. Et c'est une des raisons pour lesquelles je cite énormément les débats parlementaires de novembre dans le livre, parce que c'est finalement à ce moment-là que la loi étant agressée, beaucoup de choses sur ces implicites se sont dites. C'est là en particulier qu'on trouve des discours qui sont pour le coup des discours effectivement de défense du rôle positif de la colonisation décliné sous tous ses aspects, où on trouve l'idée que nous avons apporté, nous, France républicaine civilisatrice, la science, la culture, la vraie religion aussi au passage, à des peuplades qui autrement étaient inaptes au développement, incapables de cultiver leurs champs, enfin, planter des dattiers, des choses très étranges, qui n'avaient pas d'intérêt par rapport à la vigne, etc. Donc si vous voulez lire ce genre de rhétorique, qui est consigné dans Mémoire d'Empire, ce sont les débats de novembre 2005 qui sont particulièrement intéressants. Mais ils sont intéressants pour une autre raison, c'est qu'il y a un effet d'actualité qui crée une interpolation. Il y a la question des émeutes de banlieue. Octobre-novembre, les émeutes de banlieue, ce qu'on a appelé les émeutes de banlieue, prennent place au moment même où les députés sont en train de débattre autour de la loi du 23 février. Et là, il y a un grand moment d'interpolation au sens propre, où dans les débats sur la loi du 23 février, se glisse tout un ensemble de commentaires et d'argumentaires qui visent en fait la crise des banlieues. Aussi bien du côté de la droite qui défend la gestion Sarkozy de la crise que du côté de la gauche qui n'a qu'une envie, c'est évidemment de faire trébucher Sarkozy sur la non-maîtrise de la gestion de la crise. Et donc on a deux choses qui auparavant n'étaient pas naturellement connectées, qui en viennent à être connectées dans le discours parlementaire. C'est d'un côté ce qu'on appelle une émeute, en tout cas des gestes d'insurrection et d'insoumission dans les quartiers populaires, et de l'autre côté la question du rapport de l'État, de la République à son passé colonial. Tout ça va produire un formidable bouillonnement de discours, des positions idéologiques extrêmement tranchées entre la droite et la gauche, mais en même temps, un espace de problématisation commun. C'est-à-dire que la gauche et la droite vont se retrouver à dire conjointement que d'un côté, les émeutes de banlieue et de l'autre côté, le rapport de l'État républicain à son passé colonial ont nécessairement quelque chose à voir. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est sur ce que l'État doit dire de son passé colonial. C'est-à-dire que la gauche dit « l'État doit tout dire de son passé colonial ». À nouveau, une petite citation d'un député socialiste, Michel Charza. Alors, il faut rendre les archives, il parle des archives de la période coloniale et en particulier de la guerre d'Algérie, il faut rendre les archives accessibles et encourager la recherche en vue de restituer le passé de notre pays dans son intégralité. Le récit historique doit prendre en compte la pluralité des vécus de nos concitoyens, notamment ceux des familles issues de l'immigration, qui ne peuvent ressentir que douloureusement toute négation de leur héritage. Donc position de gauche, et implicitement ça veut dire la loyauté perdue des jeunes dits issus de l'immigration des quartiers populaires, c'est quelque chose contre lequel il faut lutter par un moyen au moins symbolique qui est de faire la lumière sur le passé colonial. Alors du côté de la droite, ça donne Christian Kerr. N'est-ce pas faire œuvre utile que de rappeler le rôle positif de la France et de la colonisation à nombre de ces jeunes Français issus de l'immigration qui reçoivent au premier degré les messages soulignant les aspects négatifs de la période coloniale? Comment ceux-ci pourraient-ils ressentir une quelconque fierté d'être Français dès lors que les historiens ne leur présentent la France que comme un pays qui a exploité leur pays d'origine et martyrisé leurs ancêtres? Donc du côté de la gauche, il faut tout dire. Du côté de la droite, il faut évidemment dire plus le côté positif que le côté négatif. Il n'empêche que gauche et droite en partagent un même argument, qui est que les jeunes dits issus de l'immigration auraient nécessairement à recevoir un message sur la colonisation de la part de l'État. Et ça crée un domaine de débat qu'on peut, à proprement parler, appeler le domaine de la question postcoloniale, qui conduit à lire ce qu'il y a 10 ans on aurait appelé des émeutes populaires, dans des termes de rapport au passé colonial, et donc qui nouent d'une certaine manière des questions qui auparavant ne l'étaient pas. Et j'en prends pour preuve une chose très simple, qui est qu'aujourd'hui, tout sociologue qui travaille dans les quartiers populaires, quand bien même il travaille dans les quartiers populaires depuis 15 ans, se voit littéralement sommé, dans des présentations publiques de travaux, mais même dans des séminaires de recherche, de donner son avis sur le rôle de la variable coloniale dans tel et tel type de discrimination, dans tel et tel type de ressenti, de vécu de la discrimination, quand bien même, d'ailleurs, il n'a rien à en dire ou il ne sait pas comment faire jouer cette variable. Autrement dit, il y a 10 ou 15 ans, on pouvait parler des discriminations dans les quartiers populaires sans poser la question de leur dimension ou de leur articulation au passé colonial. Désormais, c'est devenu un peu obligé et imposé. Et là, on voit vraiment ce qu'est la force d'une controverse. La force d'une controverse, c'est de faire émerger des espaces de problématisation communs qui sont habités par des acteurs qui peuvent, d'un autre côté, être de parfaits ennemis idéologiques, mais qui en viennent à partager les prémices de l'interrogation et donc à la valider, et à en faire, d'une certaine manière, le seul horizon ou champ naturel pour poser les questions. Je signale au passage qu'une des implications terribles de cette idée partagée par la droite et la gauche qu'il faut parler aux jeunes émeutiers du passé colonial, etc., une des implications terribles, c'est d'abord qu'on présuppose la déloyauté de ces jeunes par rapport à la République. Et d'autre part, c'est s'interdire aussi, pourquoi pas, c'est ce qu'avaient proposé des sociologues comme Gérard Mauger ou Fabien Jobard, de lire les insurrections et les insoumissions populaires d'octobre-novembre 2005, d'abord évidemment comme des gestes proprement politiques, et deuxièmement comme porteurs d'un programme politique en nom propre lié à des discriminations concrètes, des réactions à des discriminations policières, quotidienne, des brigades anticriminalité, des interpellations musclées en commissariat, problème très concret aussi d'accès à la citoyenneté via l'accès aux services sociaux, etc., etc. Autrement dit, à force de plaquer la grille coloniale ou postcoloniale, il y a de fait, c'est pas une position qui m'est propre, c'est pas une position que je dis en nom propre, il y a de fait un effet de recouvrement d'un champ de questions populaires et sociales par un autre qui tend d'une certaine façon parfois à les invisibiliser. Parce que, c'est là-dessus que je conclurai, si effectivement le problème est colonial, alors quelles sont les implications en termes de politique concrète ? C'est-à-dire qu'on attend un nouveau discours du président de la République, semblable à celui historique et heureux sur le Veldiv, dans lequel l'État français reconnaît sa responsabilité dans des massacres coloniaux, un ensemble d'exactions commises lors des occupations coloniales, etc. Très bien. Mais en quoi ça aide très concrètement à lutter contre de la discrimination populaire au quotidien? En quoi ça aide à repenser une politique sociale pour les quartiers populaires, etc.? On peut se dire que le lien n'est pas évident et qu'à la limite, si l'État acceptait de faire ça, il s'en tirerait finalement à bon compte pour solde de sa politique ou de son inaction dans ce domaine.